Vous écoutez KTO Radio, il est 14h.
Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, bien, nous sommes, ça sent la fête de la musique, alors quoi de mieux que d'inviter un compositeur. Bonjour, Joachim Simas.
Bonjour.
Votre nom forcément résonne dans la tête de plusieurs personnes, et puis chez d'autres, ça résonnera quand ils se souviendront des 2-3 titres que de chansons que vous avez composées et qu'on chante encore dans les églises. Vous êtes là aussi pour nous présenter... Psaume et acclamation, année liturgique C, et puis psaume parolier, année liturgique C aussi. Donc c'est un psautier, tout simplement, où il y a des nouvelles... Alors vous avez-vous expliqué pourquoi il y en a encore un nouveau, parce qu'il y en a quand même pas mal régulièrement qui sortent. Qu'est-ce qu'il a de plus? Qu'est-ce qu'il a de moins, peut-être? Vous allez nous dire ça dans un instant. Juste avant, je vous invite à nous lire un extrait de texte de votre choix.
« Toi qui gouvernes ma vie, quand je m'y attends le moins... » Toi qui gouvernes ma vie, passager clandestin, je t'abandonne mes pensées, tous mes silences, pour que tu puisses enfin parler. Je t'abandonne mes désirs, mes impatiences, pour te laisser tout transformer. Si tu prends le gouvernail, je dois m'attendre à tout. Dans l'ouragan des retrouvailles, tu me fais vivre vent debout. Toi qui gouvernes ma vie, quand je m'y attends le moins. Toi qui gouvernes ma vie, passager clandestin. Passager clandestin. Tu m'apprivoises à petit feu depuis l'enfance. Et j'ai appris à t'écouter, tu m'apprivoises dans le sel de la souffrance. Où j'ai appris à te nommer, quand tu prends le gouvernail, la vie me fait moins peur. Tu viens abattre les murailles autour des portes de mon cœur. Toi qui gouvernes ma vie, quand je m'y attends le moins. Toi qui gouvernes ma vie, passager clandestin. Passager clandestin.
Merci beaucoup. Donc c'est là, on a devant nous l'auteur, compositeur, interprète.
Pour ce texte, ce n'est pas moi l'auteur, c'est ma collègue de travail depuis toujours, c'est Manik. Mm-hmm. Et donc je lui avais demandé de m'écrire des textes pour un disque de chansons spirituelles. Et ce texte, je lui avais fait des listes de choses, des pages, des choses qui m'habitent. Et elle a tapé dans le mille avec ce texte qui me tient beaucoup à cœur.
Pourquoi ?
Parce que le passager clandestin, il est toujours là. Et c'est lui qui gouverne ma vie. Voilà.
Vous l'appelez passager clandestin ?
Oui. C'est une manière de... Oh, c'est une manière de traduire, ça me fait penser à la phrase d'Augustin, « Deus interior intimo meo », Dieu plus intime. Intérieur à l'intime, le plus intime de moi-même, que je ne connais pas. Mm-hmm. Que je ne connais pas.
Comment l'avez-vous rencontré ?
Comme Obélix, je suis tombé dedans quand j'étais petit, en Grèce. Ma famille était très, très chrétienne, très pratiquante. Et puis après, dans ma scolarité, pendant 12 ans, j'étais dans une école des frères maristes, mm-hmm, à Athènes. Mm-hmm. Ben là, il était là, partout.
Est-ce qu'il y a un moment où vous avez une crise de foi ou... Vous avez envie de dégager tout ça parce
Heureusement.
Parce que vous n'en connaissiez peut-être que les règles, la morale,
tout
qui fait que beaucoup de personnes d'ailleurs ont quitté l'Église ou perdu la foi, mais en sachant pas vraiment ce qu'était la foi.
Vous avez tapé dans le mille, et je dirais heureusement, il y a une crise de foi. le mot crise au sens grec du terme, c'est-à-dire discerner et séparer. Donc mettre de côté un dieu gendarme, un dieu légaliste, et puis progressivement découvrir, et je n'ai pas fini, un dieu amour, un dieu matriciel, comme dirait Chouraki. Voilà.
Vous avez le souvenir du moment où, où ça a été assez clair, c'est-à-dire qu'après le côté peut-être rejet un peu rapide, vous êtes revenu à une connaissance de Dieu peut-être un peu plus juste. Vous avez souvenir d'un moment ?
Non, il n'y a pas eu de... ça s'est passé progressivement entre les 26 et 30.
Vous étiez en France à ce moment-là ?
Oui, je suis arrivé à 18 ans en France.
Pourquoi d'ailleurs ?
C'était pour... mon rêve d'enfant, c'était d'entrer chez les jésuites. Et au fur et à mesure de mon itinéraire, je me suis rendu compte que ce n'était pas mon chemin. Voilà. Peut-être à cause de tout ça. Il fallait trouver ailleurs autre chose, quelqu'un d'autre. Mmh. Et donc, cette période de transition a duré un moment.
Les histoires politiques en Grèce dans la première partie du XXe siècle ont eu une incidence sur votre parcours ?
Non, pas tellement, parce que si d'une certaine manière j'avais quitté la Grèce, l'épisode colonel est venu bien après, et ça m'a empêché de retourner en Grèce parce que je n'avais pas fait mon service militaire. Et heureusement, j'y ai échappé. Voilà.
Alors après, qu'est-ce qui vous a mis le pied à l'étrier dans la musique ?
Ah, mais la musique m'habitait depuis tout petit, à la paroisse où je me trouvais à Athènes. Très tôt, j'ai accompagné les chants à l'harmonium, à l'orgue, voilà. Et quand je suis arrivé en France, j'ai continué. J'ai fait des études au conservatoire. Parallèlement à d'autres études.
Oui, c'était plutôt la philosophie.
C'était les lettres classiques. C'était les lettres classiques et la philosophie. Et plein d'autres choses qui m'intéressaient. La Bible, la psychanalyse, la théologie. Voilà. Et donc, la musique liturgique aussi, depuis mon enfance, c'était une passion. Et j'ai eu la chance, dans les années 67, de rencontrer des personnes, des paroliers, des hymnographes remarquables, comme Didier Rimaud, Michel Skouarnec, avec qui on a eu une longue collaboration. Et ça a été pour moi un approfondissement de la foi, à travers leurs hymnes, merveilleuse, nourrie de sève biblique et d'une théologie profonde.
Encore un mot sur votre présence en France à 19 ans. Vous étiez tout seul ?
J'étais tout seul.
Ça a été un moment de crise un peu ? Ça a été un moment où vous êtes raccroché fortement à votre foi, à la communauté chrétienne ?
Et non, mais comme je voulais entrer chez les jésuites, je suis entré au noviciat des jésuites. Donc, j'étais pas seul.
Vous êtes resté combien de temps au noviciat ?
Le noviciat durait 2 ans.
C'est des bons.
Et puis après, il y avait d'autres.
Ce sont des bons souvenirs ?
Non. Non, parce que la formation des jésuites a changé d'esprit.
Oui.
2 ans après. Quand je suis arrivé, on m'a dit la musique, stop. Vous êtes beaucoup trop obsédé par la musique, ça va vous éloigner de Dieu. Voilà ce qu'on m'a dit.
Ah oui, d'accord.
Et donc, on m'a enlevé toutes mes partitions. On m'a défendu de toucher à un harmonium pendant 2 ans.
Ça vous a permis d'apprendre de plus près l'obéissance.
Ah, ben ça...
Et donc 2 ans après, vous avez retrouvé vos amours musicales avec des notes partout.
Non. Ça a été toujours au compte-gouttes après. Et progressivement, ben, quand je suis entré au conservatoire, après, voilà.
Alors, dans votre travail, vous êtes retrouvé avec d'autres compositeurs, on va dire sur un marché qui était... il y avait tout à faire, puisqu'on sort de Vatican II, on arrête de faire les chants classiques, les cantiques, le latin, le grégorien. On fait une grosse pause et là, il faut créer. Et comme ça arrive parfois qu'on est devant une page blanche, ça réussit pas toujours du premier coup. Donc y a des choses qui ont été réussies, d'autres un petit peu moins, j'imagine, quand vous le relisez aujourd'hui. Si vous faites un bilan aujourd'hui, d'ailleurs, ça donne quoi ? Qu'est-ce que vous vous dites sur cette période ?
C'était une période d'intense créativité en France, dans les années 70, enfin après le Concile. Moi, j'ai eu la chance de faire partie d'une équipe de recherche de compositeurs qui s'appelait Église qui chante, qui était fondée par le père Gélinot, d'autres figures marquantes du renouveau liturgique.
Oui.
Et donc, ce n'était pas seulement la recherche musicale qui m'intéressait. Ça a été, je dirais, le sens de la liturgie, d'après les enseignements de Vatican II, Sacrosanctum Concilium. Donc la théologie de la liturgie, je dirais pas seulement le protocole, les gestes. Et donc ma musique était forcément au service d'une assemblée et elle était nourrie à la fois des beaux textes qu'on me proposait et à la fois nourrie, du cahier des charges liturgiques.
C'était difficile ?
Non. C'était passionnant.
C'était passionnant. Et vous avez eu le temps de vous marier, d'avoir des enfants quand même ?
Ça, c'est venu beaucoup plus tard.
C'était vraiment... La musique vous absorbait complètement ? C'était...
Ah oui, parce qu'assez vite, ça a été des voyages un peu partout dans les pays francophones et la Grèce après. La France, la Belgique, le Luxembourg, la Suisse, le Canada, donner des stages.
Tantôt avec Manic aussi pour les concerts.
Tantôt avec Manic, tantôt seul pour donner des sessions de liturgie, des chansons pour enfants, des stages de pédagogie, etc., etc. C'était et puis des récitals.
Il y avait un groupe aussi où vous étiez plusieurs.
Ah oui, ça c'était une parenthèse. Oui, un groupe.
Ça a duré 3-4 ans.
Assez farfelu, qui s'appelait. Mais de bonnes chansons françaises. Ça s'appelait le groupe Crèche.
Et vous chantiez quoi ?
Ben, on chantait nos chansons.
D'accord.
Mais c'était pas du tout liturgique, c'était des chansons, la chanson française. Voilà.
Si aujourd'hui on vous demandait. Toutes ces compositions, il y en a à peu près, je crois, un millier qui sont connues, répertoriées. La source d'inspiration, c'est toujours la même ? Elle ne s'est jamais tarie ? Et quelle est sa nature ?
La source d'inspiration, il y avait les textes d'un côté, puisque je mettais la musique sur des textes qu'on me proposait. Rares ont été les chants où la musique a précédé.
Oui.
Où je donnais à un parolier une musique, voilà. Bah, la source d'inspiration, c'était mes nourritures musicales. En particulier, aussi curieux que ça puisse paraître, c'était le grégorien, Bach, le jazz et le blues. Voilà, c'était... À mes débuts, c'était plus le jazz et le blues, mais progressivement, je me suis assagi, entre guillemets, pour que les chants soient chantables par une assemblée.
Voilà. Est-ce que, comme c'était une écriture... Alors, pour la partie destinée aux assemblées, est-ce que vous vous mettiez un peu en condition en priant, en sollicitant le Saint-Esprit, en faisant quelque chose comme ça, ou tout simplement vous lisiez le texte, vous écoutiez la propre musique du texte et vous cherchiez, ou ça vous venait tout seul, de pouvoir le mettre en musique ?
Je dirais que c'est en amont qu'il y a la méditation de la parole de Dieu quotidienne. Bon. Et donc, la lente mastication de cette parole qui m'habitait, lorsque je voyais des beaux textes de Didier Rimaud ou de Michel Skouarnec, forcément ça résonnait aussitôt en moi. Et parfois, j'étais un peu bloqué parfois pour les mettre en musique, parce que je sentais que c'était une lourde responsabilité.
Comment vous considérez que la musique peut aider à justement prier ou mieux connaître le dépôt de la foi, voire la Bible ?
Quand la musique se met au service de la parole de Dieu, ou des hymnes qui s'inspirent fortement de la parole de Dieu, qui ne sont pas des cacahuètes d'apéritif, alors là, la musique se met au service d'un façonnage de la parole. L'expression est d'un grand poète, Patrice de la Tour du Pin, qui disait « Moi, je n'écris que ce qui m'a façonné. » Et donc, j'espère que mes musiques ont été façonnées en quelque sorte par la parole de Dieu via les poètes, les hymnographes qui me proposaient leurs textes.
Donc, pas de recette, pas de facilité.
Non.
À chaque fois, remonter les manches.
Et parfois, ne pas avoir peur de déchirer plusieurs fois une partition jusqu'à... Ça m'est arrivé jusqu'à 6-7 fois. Et parfois, attendre, laisser le temps pour que ça mûrisse.
C'est un travail solitaire ?
Oui, c'est un travail solitaire. Mais... j'ai toujours considéré que si j'avais en face de moi quelqu'un en qui je fais confiance, même s'il ne partage pas exactement mon esthétique et ma stylistique, ça me faisait plaisir d'envoyer mes partitions pour avoir un feedback. Et ça a été le cas longuement avec mon maître, le père Gelino.
Dans votre parcours de création de musique sacrée, on peut peut-être appeler ça comme ça, ça n'a pas toujours été bien reçu. Dans les années 70-80 ou après, il y a des gens qui râlaient et qui ne comprenaient pas pourquoi on cherchait à faire du neuf alors qu'il y avait tout ce qu'il fallait avant. Ça a été des moments un peu difficiles chez vous. Ça a été des souffrances un peu. Ça a été parfois, peut-être pas des crises de foi, mais des crises de vocation. Ça a eu un impact fort
Non. Je pense qu'au début, quand j'ai commencé, après les années 68, il y a eu une réception très forte parce que c'était, les assemblées chrétiennes avaient besoin de quelque chose de nouveau en lien, en harmonie avec les enseignements de Vatican II. Voilà. Donc il y a eu des flottements chez tous les compositeurs. Mm-hmm. Ça, chez les paroliers. Mais c'était une période foisonnante et passionnante. Alors après, je pense qu'il y a un équilibre qui a été trouvé. Beaucoup plus tard, à partir des années 80, là où je me suis senti moins à l'aise, c'est de voir le genre de texte que l'on mettait en musique. Là, je trouvais que c'était souvent creux. Ou que l'on faisait des citations d'écriture qu'on mettait à la musique, à la « vas-y que je te pousse » avec les accents de travers. C'était plus les hymnographes comme Didier Rimaud ou comme Michel Skouarnec ou comme Claude Bernard et d'autres. Voilà, là, c'est vrai que c'est pas une souffrance. Mais enfin, disons, j'ai appris avec l'âge à être tolérant.
Est-ce que vous pouvez nous dire un mot justement sur cet ouvrage, ce travail, donc psaume et acclamation, pourquoi encore un nouveau psautier et qu'est-ce qu'il y a dedans ?
Alors, il faut remonter à la source. En Alsace, il y a une association qui s'appelle l'association Union Sainte-Cécile, qui a été fondée en 1882. Et elle fédère environ 700 chorales. 700 chorales.
Oui.
Et alors, le but de cette association, surtout après le Concile, ça a été d'être au service de la liturgie, du chant liturgique. Et cette association avait l'intention d'éditer, de réaliser un nouveau psautier à l'usage essentiellement du diocèse d'Alsace, en fait de Strasbourg. Et le responsable de la musique liturgique de la liturgie et d'art sacré, Dominique Baradel, portait en lui ce projet depuis un moment et il a demandé à un compositeur, à un ami, Philippe Robert, de l'aider à réaliser ce projet. Je pense que ce psautier a une originalité à plusieurs étages. D'habitude, dans la réalisation d'un psaume, il y a deux acteurs liturgiques. Il y a un psalmiste qui psalmodie, qui cantile, comme on dit, et l'assemblée qui reprend une antienne, un refrain. Là, l'idée, ça a été d'étudier chaque psaume de chaque dimanche, de chaque fête, de repérer sa structure littéraire. Oui. Et en fonction de cette structure, d'avoir plusieurs acteurs, et non pas seulement un psalmiste et une assemblée, d'avoir un psalmiste, l'assemblée, bien sûr, un chantre soliste, j'expliquerai, et puis une chorale. Mais une chorale qui chante en polyphonie ou en séparant voix d'homme seulement, voix de femme. Une chorale forcément à qui on confie des parties un tout petit peu plus élaborées qu'un simple refrain que l'assemblée du tout venant, si je peux dire, puisse reprendre. Eh bien, il y a une différence entre une psalmodie ta da 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 ta da 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 da, ça c'est une psalmodie, la mélodie c'est ta da pa 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 pa, là une mélodie s'étale, enfin voilà. Donc le chantre avait comme a comme mission de proposer un refrain à l'assemblée, alors que le psalmiste chante une psalmodie. Voilà. Et il y a une autre originalité, mais rarissime. C'est qu'entre Philippe, Robert et moi-même, il y a une grande amitié qui date de, je ne sais plus, 40 ans minimum, et une grande confiance et respect de l'autre. Chaque fois qu'on écrit un psaume, on le laisse reposer, nous l'envoyons à l'autre. Ton avis, qu'est-ce que t'en penses ? Et nous acceptons ou nous n'acceptons pas les remarques que l'autre fait, nous sommes libres, mais très souvent, il y a des idées et on corrige en fonction de... Voilà. Et tous les deux, nous fonctionnons dans de cette manière-là.
Il a déjà commencé à servir.
Ah, mais dans ce livre que vous avez là, voilà, vous avez la moitié des compositions sont de Philippe, et l'autre moitié, c'est de votre serviteur. Et tout a été écrit de cette manière, et on continue.
On arrive déjà à la fin de l'émission, c'est le moment des questions courtes, réponses courtes. Est-ce que vous pouvez me dire un chiffre entre 1 et 10, s'il vous plaît ?
4.
Si vous pouviez rencontrer un personnage de la Bible, qui serait-ce et que lui demanderiez-vous ?
De la Bible ? Ben, Jésus.
Et que lui demanderiez-vous ?
Mais comment t'as fait ? Comment t'as fait ? Quel courage il a eu pour, tout en tenant à la tradition, remettre en cause ceux qui ne respectaient pas l'être humain, ceux qui déviaient l'amour inconditionnel de Dieu pour les humains et faire passer avant la loi et les pratiques.
À nouveau, entre 1 et 10.
1.
Quelle est la dernière fois où vous avez reconnu l'action du Christ dans votre vie ?
Ce matin. Je me suis levé, j'ai vu qu'il faisait beau, et comme tous les matins, j'ai dit béni soit le Seigneur, voilà.
Une dernière, toujours entre 1 et 10 ?
Entre... 9.
Quelle est la dernière fois où vous avez sollicité l'aide de votre ange gardien ?
Je ne le sollicite pas souvent, mais je reconnais son action après coup, très souvent, enfin pratiquement tous les jours.
Et à nouveau, vous avez le souvenir de quoi, à un moment ?
Eh bien, qu'une voiture ne m'a pas écrasé, qu'au dernier moment, j'ai vu que, voilà, ce genre de choses, et puis éviter de laisser en moi le poison de l'envie.
La fête de la musique est là, sans vouloir être indiscret, qu'est-ce que vous envisagez de faire ?
Ça dépendra des envies du moment. Aller quelque part où il y a de la musique live, vivante, soit regarder à la télévision s'il y a la retransmission d'un concert de musique classique de préférence, ou rester chez moi et écouter du Ravel.
Très bien, merci beaucoup, merci d'être venu jusqu'à nous. Je rappelle donc le titre de ce psautier, psaume et acclamation, Union Sainte-Cécile Strasbourg. Merci beaucoup et puis merci à vous tous pour votre fidélité. Vous pouvez retrouver notre programme sur notre site www.ktotv.com. Moi, je vous souhaite une bonne soirée et puis évidemment une bonne fête de la musique. À bientôt.
Écoutez KTO Radio partout en France sur le DAB+ et dans le monde entier sur Internet. Vous écoutez KTO Radio partout en France sur le DAB+ et dans le monde entier sur Internet.
Vous retrouvez une conférence de l'Université de la Vie intitulée « La vie sous conditions ». Une conférence enregistrée en 2019.
Chers amis de KTO, bonsoir. Je suis heureuse de vous partager quelques moments de notre deuxième séquence de l'Université de la Vie, organisée par Alliance Vita. Ce soir, nous allons parler de la vie sous condition. La dignité est-elle une qualité inhérente à la condition de l'homme ou bien dépend-elle des circonstances? Pour en parler, eh bien, nous aurons trois invités. D'abord, le docteur Olivier Trédan qui va nous parler de la mort et de la fin de vie. Ensuite, Caroline Roux reviendra sur la question des commencements et notamment de la grossesse. Et puis pour finir, Blanche Streb nous expliquera un peu les enjeux de l'eugénisme aujourd'hui. Voilà, très bonne soirée.
La question est donc celle de la vie abrégée. Qu'est-ce qu'une vie abrégée? Est-ce un décès brutal, une fin de vie prématurée, une mort subite? Vous avez peut-être remarqué, quand on annonce un décès dans un cercle familial ou dans les médias, une des premières questions qui vient est « mais de quoi est-il mort ?» Autrement dit, quelle est la maladie qui l'a terrassé? Un peu comme si finalement il s'agissait de l'échec de la médecine. Peut-être devrait-on répondre autrement. Non, il ne s'agit finalement que d'une mort naturelle, une fin de vie certes inattendue, trop prématurée, mais une mort naturelle. Qu'est-ce qu'une mort naturelle au jour d'aujourd'hui, à l'heure d'une médecine si technique, si performante? Pour prendre l'exemple du cancer, donc je suis cancérologue, on a des nouvelles thérapies, des nouvelles molécules, des traitements qui permettent d'allonger de façon très importante la vie des patients. Un peu à l'instar d'un patient avec un diabète qui doit faire ses injections d'insuline tous les jours, un patient qui souffre d'un cancer peut bénéficier de nombreuses lignes de traitement avec des nouvelles molécules qui arrivent tous les jours. On parle souvent de chronicisation de la maladie. Cependant, cela nous est souvent reproché, à nous les médecins, de créer ces situations qui peuvent relever de l'obstination déraisonnable. On poursuit les traitements coûte que coûte. Et personnellement, je me pose souvent la question, quelle est la pertinence de la mise en route de cette nouvelle ligne de traitement? Vous savez, la énième ligne de chimiothérapie. En parallèle, pour certaines personnes atteintes de maladies incurables, surtout lorsqu'on est au stade dit terminal, vous savez, le stade terminal du cancer, la perspective de se voir diminué, souffrant, peut apparaître comme insupportable. Insupportable dans le sens « je ne veux pas le subir pour moi-même et je ne veux pas le faire subir aux autres. Je vais être obligé de vivre comme ça, alité pendant une longue période, dans cet univers médicalisé. Cela est intolérable. » La perte d'autonomie, la dépendance entretiennent l'angoisse. L'isolement et le sentiment d'être un poids mort pour sa famille et pour la société. Je voudrais développer ces trois points ce soir. Les revendications d'autonomie, les revendications d'indépendance, et quelles réponses pouvons-nous apporter à ces questions-là? Ces trois enjeux qui me semblent importants autour de la fin de vie, qui soulèvent de nombreux débats depuis plusieurs années, ces trois enjeux m'apparaissent essentiels. Premièrement, le désir légitime d'autonomie. Autonomie au sens de faculté d'agir par soi-même. La grande revendication de notre société, être reconnu non pas seulement en tant que personne malade, mais comme un sujet de droit à part entière, sujet ayant les capacités de faire des choix de son propre chef. Le droit des malades à exercer un choix libre et informé. C'est un des fondements de notre loi. Les lois bioéthiques, dès juin 1999, donne le droit pour le malade à refuser un traitement. Et ce n'est pas simple dans mon activité de tous les jours. Madame, monsieur, je vous propose cette nouvelle ligne de traitement, cette nouvelle molécule pour votre cancer. Et la réponse des patients peut être « non, je n'en veux pas ». Comment puis-je répondre au désir légitime d'autonomie de mes patients, aux choix qu'ils font pour eux-mêmes, parfois même au détriment de la durée même de leur vie? Autrement dit, comment puis-je consentir à cette vie abrégée? Alors tout d'abord, je vous rappelle que le médecin est tenu de tout mettre en œuvre pour convaincre la personne malade d'accepter un soin indispensable. Ça, c'est ce que dit la loi. Mais d'un autre côté, je ne suis pas censé entreprendre un traitement considéré comme une obstination déraisonnable, c'est-à-dire un traitement jugé inutile, disproportionné, et qui n'a d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. C'est aussi ce que dit la loi, la fameuse loi dite Leonetti. Il faut donc maintenir un équilibre subtil entre un accompagnement médical bienveillant et une attitude ajustée envers ces personnes en fin de vie, pour pas qu'elles éprouvent ce sentiment de soumission par rapport au médecin. Un des changements importants qui est en train de s'opérer dans la prise en charge des patients avec le cancer, c'est la mise en place précoce des soins palliatifs, ce qu'on appelle parfois les soins de support. On est capable de mettre en parallèle une chimiothérapie et des soins globaux pour que la patiente puisse supporter cette maladie grave, parfois jugée intolérable. L'idée n'est évidemment pas de mettre les patients face au fait qu'ils sont en train de mourir. Il s'agit de prendre soin des patients de façon globale, de pallier à tous les symptômes de la maladie dès le début de cette maladie. Quel meilleur accompagnement que de prendre le temps d'écouter, de considérer cette personne comme autonome. Vous le savez, avec la maladie, les capacités intellectuelles sont parfois altérées, le jugement est parfois faussé. Soit nous pratiquons une médecine sans âme et nous n'écoutons pas les désirs des patients, soit nous prenons le temps d'accorder de l'importance à l'expression de la volonté réelle des patients. Attention, toutes les demandes n'appellent pas forcément une réponse immédiate. Mais il faut essayer de tendre vers une pratique des soins qui englobe toutes les supplications. Lutter contre la maladie et la souffrance, et en même temps, essayer de laisser le patient acteur de sa propre prise en charge. Il ne s'agit pas tant de responsabiliser les patients, mais plutôt de les aider à identifier leurs propres besoins et à trouver les ressources internes pour s'adapter à leurs nouvelles conditions de malade. Ainsi, le soin reste un et unique. On ne va pas dissocier le soin actif du soin palliatif. On va essayer de donner la capacité au patient de prendre part à ses soins pour unifier sa personne. Je prends en compte les angoisses du patient face à sa maladie et j'aide cette personne à mobiliser ses propres ressources pour lutter contre cette maladie. Deuxième enjeu qui me paraît très important, l'acceptation de la dépendance. La difficile acceptation de la dépendance au sens ne plus pouvoir accomplir seul les actes élémentaires de la vie quotidienne. C'est souvent le souvenir de la souffrance et surtout de la dépendance de proches en fin de vie qui nourrit l'idée qu'une fin de vie est insupportable de façon inéluctable. Dans notre société, progressivement, la vie des personnes qui ne produisent plus et qui coûtent de plus en plus cher est un réel problème. On parle souvent de personnes dépendantes, de personnes assistées. Et pour certains, cela est intolérable. L'autonomie dont je viens de parler serait une valeur tellement importante qu'il faudrait que nous assumions seuls, pleinement, entièrement, pendant toute la durée de notre vie, cette autonomie. Est-ce bien crédible? Vous connaissez tous des personnes en état de grande dépendance. La dépendance, c'est aussi la transformation des liens familiaux, des enfants qui doivent endosser le rôle de parents pour leurs propres parents. La réponse de la société à ces états de grande dépendance, c'est l'institutionnalisation, la prise en charge de ces personnes dépendantes dans des structures de soins de long séjour. Dans beaucoup de situations douloureuses, l'hospitalisation définitive est et reste la seule réponse raisonnable et acceptable. Cependant, il faut nous interroger. Qu'est-ce que cela implique? Parfois, des visites des proches, des familles qui deviennent compliquées, qui se font de plus en plus rares. Et parfois, c'est une véritable mise à l'écart de la société qui s'opère. Ce que certains appellent la mort sociale. Comment ne pas comprendre l'angoisse de ces personnes vulnérables, dépendantes, face à cette exclusion de fait? En 2017, l'association Les Petits Frères des Pauvres a publié une étude de l'Institut CSA sur l'isolement des personnes âgées. 300 000 Français de plus de 60 ans ont été jugés en situation de mort sociale. Ces personnes ne rencontrent pratiquement jamais ou très rarement d'autres personnes, que ce soit dans leurs cercles familiaux ou dans les cercles sociaux. Néanmoins, un point très positif de cette étude, un tiers des personnes de plus de 80 ans voient un de leurs enfants au moins une fois par semaine. L'idée est donc de maintenir autant que possible une certaine autonomie, un certain degré d'autonomie malgré la dépendance. Acceptons premièrement que nous avons tous été dépendants, à commencer dans nos premières années de vie. Avec l'âge, avec la maladie, finalement, nous redevenons dépendants. Lorsque les gestes de la vie de tous les jours, se laver, s'habiller, manger, deviennent de plus en plus compliqués sans l'aide de professionnels ou de proches, des choix politiques peuvent permettre d'aider ces personnes en fin de vie. Ainsi, je pense que le maintien d'une certaine autonomie est possible. Parce que ce sont des relations interpersonnelles, des échanges entre les personnes en fin de vie et leur entourage qui permettent d'édifier l'homme. Tout homme est fait pour croître. Mais l'acceptation de la décroissance, de la vulnérabilité est aussi un chemin qu'il nous faut valoriser. Autrement dit, la vie de ces personnes dépendantes et vulnérables a tout autant de valeur que ma propre vie. Troisièmement, il faut susciter la confiance. Je parlais tout à l'heure de mort naturelle. Aujourd'hui, c'est aux SAMU, aux pompiers, aux urgentistes de réinventer les rituels autour de la fin de vie. Plusieurs milliers de personnes en provenance d'EHPAD décèdent chaque année dans les heures qui suivent leur admission à l'hôpital. Est-ce une fin de vie naturelle ? N'est-ce pas dramatique de finir sa vie brutalement dans un environnement inconnu ? Dans une salle d'urgence, parfois accompagnée de personnel, certes de bonne volonté, mais souvent mal préparé. Comment prendre en compte au mieux les souhaits des malades et de leur entourage afin de réagir de façon plus adaptée à ces situations critiques? Et c'est à mon sens le paradoxe des directives anticipées. La loi nous propose de décider par anticipation et pour soi-même, au cas où nous ne sommes plus en mesure de le faire, comment devrait se passer sa propre fin de vie? Il aura fallu un dispositif spécial, un document rédigé par avance, pour être sûr que les décisions des malades vont bien être respectées. Les directives anticipées, à mon sens, laissent transparaître la défiance de certains malades envers les soignants. Il faut absolument rétablir la confiance soignant-soigné. Il existe généralement une ambivalence chez les patients en fin de vie et également chez leurs proches, une tension entre le désir de vivre et le renoncement légitime devant une autonomie contrariée et une difficile acceptation de la perte d'autonomie que je viens de décrire. C'est une tension entre un souhait de non-abandon et le risque d'excès de médicalisation. Et donc il faut privilégier les gestes d'apaisement, les moments de convivialité, les espaces de loisirs, toutes les formes de thérapie trouvent ici leur place. Art-thérapie, musicothérapie, etc. Cela permet aux personnes de se projeter dans l'avenir, même si celui-ci est incertain. Et c'est justement parce que la date exacte de la fin de cette vie n'est pas fixée que le temps qui reste à vivre est si riche. C'est une période propice à la sincérité, au merci, au pardon, essentiel à la transmission pour les générations suivantes. Faire des projets en confiance ranime l'espoir. Et vous le savez, l'espoir fait vivre. Ici, il ne s'agit pas tant de l'espoir de guérir, mais de l'espoir de toujours être considéré comme une personne à part entière. Il faut donc privilégier les interactions, les rencontres entre les personnes malades et tous leurs proches. Il faut, autant que faire se peut, limiter les traitements qui endorment artificiellement. Et à mon sens, la sédation profonde ne doit être administrée qu'en dernier recours, dans le seul but d'apaiser les souffrances réfractaires dans les tout derniers moments. En conclusion, la tentation de notre société est de vouloir donner à chacun le droit à devenir le maître de sa propre mort. Alors posons-nous la question, quelle vision ai-je de ma propre vie? Mon autonomie va-t-elle être respectée? Accepterai-je mon état de dépendance? Nous le savons bien, affaiblis par la maladie, nous ne sommes ni parfaitement autonomes, ni parfaitement indépendants. Et heureusement qu'il y a des soignants pour nous entourer et pour nous accompagner. Même si la médecine hésite parfois à lâcher prise, de plus en plus, les soignants privilégient l'accompagnement. Favorisons cela, afin qu'une fin de vie abrégée ne soit plus considérée comme un échec de la médecine, mais comme un accomplissement, un signe tangible du rôle essentiel du lien que la famille humaine doit s'attacher à tisser et à entretenir. Je vous remercie.
Bonsoir à tous. Réussir son bébé, drôle de question que nous nous posons ce soir. Ce titre un peu provocateur nous invite à nous interroger sur les conditionnements actuels qui se sont dessinés autour de la grossesse. Les articles sont nombreux sur la manière de réussir sa grossesse, tel cet article sur un site de pouvoirs publics, Santé publique France. Vous avez un projet de bébé, point d'interrogation. Pensez dès maintenant à la vitamine B9, avec à l'appui les régimes alimentaires à suivre. Alors bien sûr, ce n'est pas mauvais en soi, au contraire, mais ça peut inquiéter certaines femmes qui ne les suivent pas tout à la lettre. D'autre part, les découvertes en psychologie, en épigénétique, sur les interactions entre la mère et l'enfant et leur environnement, nous en avons parlé la semaine dernière, ont montré combien, déjà in utero, l'enfant ressentait beaucoup de choses. Donc ça, ce sont des découvertes qui sont majeures. Pour autant, le risque serait de contraindre exagérément les femmes, car tout n'est pas écrit, bien sûr, dès la grossesse pour l'enfant à naître. De la prévention, on tend à glisser vers des formes d'injonction qui peuvent culpabiliser les femmes. Et c'est tout un climat ambiant actuel qui peut décentrer de l'accueil inconditionnel de l'enfant, comme en témoignent d'ailleurs des femmes dans notre service d'écoute SOS Bébé. Certaines femmes se posent la question de poursuivre une grossesse, soit qu'elles craignent que l'enfant qu'elles portent pâtisse d'excès qu'elles ont pu avoir avant qu'elles sachent qu'elles étaient enceintes, drogue, alcool, cigarettes. Ou encore que le fœtus ressente leurs hésitations à l'annonce d'une grossesse, les conflits avec le père, avec l'entourage, et que le bébé en soit marqué à vie dans son psychisme. D'où une nécessité d'équilibrer les propos, et surtout pour les femmes de faire la part des choses, même si ce n'est pas toujours facile. En positif, la médicalisation de la grossesse, et puis de l'accouchement, et tout ce qui concerne la périnatalité, ont permis de faire baisser drastiquement la mortalité maternelle et infantile. Et ça, c'est un magnifique progrès auquel, d'ailleurs, certains d'entre nous doivent la vie aujourd'hui. Au niveau médical, 7 consultations prénatales sont obligatoires en France, entre le 3e et le 9e mois, et à chaque stade, des outils de diagnostic prénatal ou de dépistage sont proposés. D'abord, les tests sanguins sur la mère pour déterminer le rhésus et les incompatibilités potentielles, mais aussi les risques de contamination de maladies infectieuses au fœtus. Ainsi, le contrôle de l'immunité contre la rubéole, contre la toxoplasmose sont obligatoires. D'autres sont proposés, comme le VIH ou l'hépatite B. Il y a aussi les tests marqueurs sériques pour dépister la trisomie. Donc, depuis 2011, ils sont systématiquement proposés aux femmes enceintes. Et puis enfin, l'échographie. 3 échographies sont obligatoires durant la grossesse pour étudier la morphologie du fœtus, son évolution, sa taille, sa position. Si des risques sont évalués, d'autres examens plus invasifs vont être proposés. Le plus connu, c'est l'amniosynthèse par prélèvement de liquide amniotique qui va consister à analyser les caractéristiques chromosomiques et génétiques du fœtus. Alors cet examen n'est pas sans risque puisqu'il présente des risques de fausse couche de 0,5 à 1%. En matière de dépistage, toutes les grossesses sont contrôlées par échographie, 85% d'entre elles par ces tests qui évaluent le risque de la trisomie. La question est de savoir quel est l'objectif de ces contrôles. Je mets à part le cas de danger vital pour la mère qui, dans de rares cas, nécessite, ou en tout cas de se poser la question de poursuivre une grossesse ou de ne pas la poursuivre. Mais de manière générale, et ça comme dans beaucoup d'autres pays, la médecine est aujourd'hui dans une tension forte concernant le regard sur l'enfant à naître. Entre le soin à apporter aux petits patients, la prise en charge éventuelle in utero ou après la naissance, et puis la proposition d'avortement en cas de handicap. En France, depuis la loi de 1975, l'avortement est possible sans délai, sans limite, si l'enfant à naître est atteint d'une affection d'une particulière gravité et incurable. Autant de notions floues, comme celle de l'incurabilité, qui peut évoluer d'abord avec l'évolution de la science qu'on connaît actuellement. En 2016, ce sont les chiffres les plus récents, 7045 interruptions médicales de grossesse, donc IMG, ont été pratiquées pour des indications sur le fœtus, dont un tiers pour des anomalies chromosomiques. Seuls 684 enfants sont nés avec une pathologie qui aurait pu faire autoriser l'interruption médicale de grossesse. Donc toutes ces dispositions en matière de diagnostic prénatal ont été encadrées plus précisément par la loi de bioéthique. En fait, on constate que le diagnostic prénatal assorti d'une proposition d'avortement dit médical s'est imposé progressivement comme une bonne pratique médicale. La trisomie est devenue emblématique dans notre pays. La France a le record mondial de son dépistage. Résultat, 96% des diagnostics de trisomie conduisent à une interruption médicale de grossesse. Alors ces pourcentages sont moins élevés en général dans les autres pays, avec moins de pression sur le dépistage. Plusieurs centaines de pathologies moins fréquentes sont aussi analysées et peuvent conduire à des avortements. Et la pression risque de s'accroître dans les prochaines années. En effet, par décret, l'État français vient de décider de rembourser un test nouveau, plus précoce pour la trisomie. Parce qu'on a découvert que des cellules des fœtus étaient présentes dans le sang de la mère. Et ce diagnostic non-invasif, donc DPNI, consiste en fait par une simple prise de sang de la mère de pouvoir analyser les caractéristiques chromosomiques et génétiques du fœtus. Or, ces tests peuvent se faire dans les délais de l'avortement, c'est-à-dire jusqu'à 12 semaines de grossesse, et pourraient échapper à toute évaluation, autorisation en vue d'un avortement dit médical. Le rapport parlementaire d'information sur la loi de bioéthique, dont a parlé Priscille au début de cette soirée, préconise d'aller plus loin et d'encadrer l'extension de ce DPNI à des maladies génétiques, sachant qu'un gène défectueux ne va pas toujours s'exprimer, donc ça demanderait vraiment d'être très prudent sur l'analyse et sur la réalité de la survenue d'une anomalie. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà la pratique actuelle du dépistage prénatal rend un grand nombre de grossesses anxiogènes, et d'ailleurs que la pathologie soit confirmée ou pas. Dans ces moments-là, les couples sont confrontés à des questionnements auxquels ils ne sont pas préparés, souvent avec un stade de la grossesse avancé, avec des difficultés à comprendre les conséquences pour la mère, pour le bébé, si un diagnostic plus précis est posé. d'autant que certains diagnostics sont posés sans que ni la médecine ni les parents soient en capacité d'agir avant la naissance. Et c'est d'une grande violence, évidemment, pour les parents qui se sentent si impuissants. Et dans ces cas, la proposition d'avortement médical est vécue dans une sorte de fatalité douloureuse, pas tant comme un choix, mais comme une proposition médicale. Et on constate la forte influence de la parole médicale et combien elle peut affaiblir dans ces cas la conscience, voire la compréhension de l'acte qui va être posé. Peut-on parler d'une volonté de réussir sa grossesse et son bébé, pardon, de réussir aussi son bébé ? À ce stade, la question ne se pose pas consciemment de cette manière-là. Les parents veulent le meilleur pour leur bébé. Et c'est plutôt, est-ce que nous allons pouvoir faire face ? Est-ce que ce bébé va être heureux ? Est-ce qu'il va être malheureux ? Quel va être le regard de la société sur lui, sur nous ? Avec à la clé des conflits souvent au sein du couple, chacun ayant besoin d'avancer à son rythme. Car ces annonces touchent à des ressorts profonds. Le bébé que l'on ne voit pas, que l'on ne connaît pas, est tout d'un coup réduit à son handicap. Et ça demande du temps pour dépasser ces ressentis douloureux, parfois ces rejets quasi instinctifs. Et souvent, ce temps n'est pas là, parce qu'il y a de la pression pour éviter des avortements trop tardifs qui sont plus complexes. Et ça pèse très lourd sur les parents. Dans ce contexte, nous sommes témoins de souffrances post-avortement qui sont souvent très douloureuses. La question du sens de ces diagnostics se pose crucialement avec le diagnostic préimplantatoire ou DPI. C'est une pratique qui est autorisée en France depuis 1994, depuis les premières lois de bioéthique, pour éviter la transmission de maladies génétiques héréditaires. Elle consiste à concevoir des embryons par fécondation in vitro, à prélever une cellule des embryons pour les analyser, puis de détruire les embryons susceptibles d'être porteurs du gène héréditaire et ne réimplanter chez la mère que les embryons non porteurs. Je dois dire que nous sommes là devant une grande impasse face à des familles extrêmement éprouvées par la maladie, et la grande tentation de cette proposition présentée comme médicale. Alors c'est une pratique qui a été source de grandes polémiques au moment du Téléthon il y a quelques années, qui avait présenté des enfants indemnes de la myopathie, mais en fait qui n'avaient pas été soignés, mais sélectionnés par DPI. Alors le DPI a été limité aux maladies héréditaires pour éviter les risques d'eugénisme, pourtant déjà bien présent dans cette pratique. Aujourd'hui, le rapport parlementaire de la bioéthique recommande que à chaque DPI, en plus, on dépiste la trisomie 21, pourtant qui n'est pas héréditaire. Et en plus, il préconise de le généraliser hors maladie héréditaire en proposant un dépistage à tous les couples qui le souhaitent pour étudier leurs caractéristiques génétiques de chacun des conjoints et de procéder à un DPI s'il y a un risque et pour s'assurer que l'enfant sera indemne de tout handicap. En réalité, nous connaissons un effet d'emballement et il est clair que l'offre technique crée la demande. Nous sommes dans une situation d'engrenage qui s'auto-alimente. Personne ne l'a vraiment décidé, mais ça fragilise la société tout entière sur la considération du handicap et de son acceptabilité. D'un côté, on a un corps médical qui se sent comme redevable de dépister les anomalies en améliorant toujours plus les techniques. Et du coup, de l'autre côté, des parents qui attendent beaucoup de la médecine pour soigner et pour éviter les handicaps et les maladies. Et les effets de la judiciarisation pèsent sur les climats actuels. On se rappelle la bataille Perruche, de l'affaire Perruche en France dans les années 2000, où des parents ont demandé des comptes à un médecin du fait d'avoir fait naître leur enfant handicapé plutôt que de l'avoir avorté. Alors, des parents courageux d'enfants handicapés, très blessés par cette approche, ont obtenu que soit inscrit au contraire dans la loi que ce n'était pas un préjudice de naître handicapé. Mais cependant, il peut toujours y avoir des attaques de médecins pour préjudice moral si on leur a pas présenté aux parents un diagnostic ou le diagnostic a été mal apprécié. Pourtant, grâce au diagnostic anténatal, des soins sont possibles. Plus de 10 000 enfants sont pris en charge chaque année à la naissance, in utero également.